Vous écoutez France Inter, il est un peu plus de 14h04, l'heure de retrouver CO2, mon amour, avec vous Denis Chessou, bonjour.
Oui, bonjour cher Dominique Delarois.
Écoutez, aujourd'hui vous allez couper les cheveux en quatre, c'est ça?
C'est formidable, c'est comme ça vous l'avez fait, c'est très bien. Alors effectivement,
ça me défrise un peu.
On a fait deux, vous allez continuer avec nous, puisque je vois que vous avez bouffé du clown, donc c'est parfait. Donc oui, on va voir coiffure, chimie, environnement, voir comment tout ceci fait bon ménage. On a aussi des coiffeurs justement qui évolue dans ce domaine. C'est intéressant parce qu'il y a quand même 1 million de têtes qui sont coupées, entendons-nous, pas guillotinées, quand même par jour en France, donc c'est intéressant de parler de cela. Et puis il y aura évidemment d'autres petits sujets. Je suis épaté, 31 heures pour le GR.
Ah ouais, c'est incroyable.
Il n'a pas dû prendre des photos de mouflons quand même parce qu'il n'avait pas le temps de s'arrêter. Ouais, c'est bon. On vous retrouve à 15 heures pour les informations, Dominique.
Comme le pou, le coiffeur est un parasite du cheveu. Non mais vous les avez vus les coiffeurs Faubourg Saint-Honoré ou sur les Champs-Élysées qui s'habillent en cosmonaute pour couper les cheveux des gens, ça va pas non?
CO2, mon amour.
J'ai même vu une enseigne de capilliculteur biocosméticien. J'assure, regroupant vraisemblablement l'ensemble des techniques capillicoles consistant à enduire de vaseline. L'arrêt de mon quoi?
Denis Chessou.
L'arrêt, une fois de plus, de mon crâne, voilà.
Eh ben bien sûr. Eh ben oui, des proches. Même les jeunes générations, ils connaissent des proches, c'est formidable. Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 mon amour, parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes nous-mêmes le changement, on va le voir aussi dans la coiffure, avec aujourd'hui Michel Bézikian et Raphaël Rousseau à la technique, sans oublier Thomas Bizot qui nous accompagne à la régie, Albert Houck, et puis Claire Destacan et Xavier Pestugia qui réalisent l'émission. Alors on pourrait croire que c'est la fête à la grenouille, non, c'est celle du vélo. Eh oui, c'est un peu passé inaperçu, mais c'est quand même la fête du vélo. En même temps, vu la propension de nos rivières à prendre actuellement leurs aises en s'étalant sur les routes, c'est plutôt parti pour que ça devienne la fête du pédalo. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, ce week-end, la République met la petite reine à l'honneur et partout, ça va pédaler sec ou plutôt mouillé, et en tout cas sans dopage. Alors, l'automobile restera peut-être au garage, du moins pouvons-nous le souhaiter. Et si déjà, dans l'esprit de chacun, le vélo pouvait incarner une alternative à la voiture sur les trajets courts, et non pas une simple rustine dans nos habitudes, ce serait déjà pas mal. Et plutôt que de se braquer sur ce qu'il faudrait mettre en place en matière de transport, soyons heureux quand même de voir qu'au moins pour 48 heures, la bicyclette aura enfin pignon sur rue. Et puis, puisqu'on était un peu dans la météo quand même, le 4 janvier 2016, donc il n'y a pas si longtemps, la préfecture de Paris et l'Île-de-France diffusaient un communiqué un poil alarmiste en raison d'un état de remplissage inférieur au niveau théorique au 28 décembre 2015, et si cette situation devait se prolonger, les lacs réservoirs de la Seine ne seraient pas en mesure de restituer suffisamment d'eau dans les cours d'eau à l'été 2016, entraînant des risques d'étiage sévères. Comme quoi la prévision météo à long terme est donc un sujet extrêmement hasardeux. Et alors moi je me suis permis d'inventer un nouveau dicton, en mai, fais ce qu'il te plaît. Avant de passer donc à la coiffure, notre actualité, on va s'intéresser un peu à Roland Garros, là aussi il y a eu un petit peu d'eau. Vous le savez, le défenseur du patrimoine est globalement un emmerdeur, c'est pas nouveau. C'est ainsi en France, contre les éoliennes, comme contre l'extension de Roland Garros. Dans les deux cas et 50 autres que j'oublie, peut-être aussi un sauveur face au curseur économique qui régente nos vies. Alors pour la Fédération Française de Tennis et les promoteurs de Roland-Garros, il s'agit en fait d'agrandir, je vous le rappelle, les lieux en englobant le jardin des Serres d'Auteuil dans le 16e arrondissement pour rattraper son retard sur l'Open d'Australie, Wimbledon, etc. Et à la clé, des rentrées de revenus supplémentaires avec un nouveau court de 5000 places. Bon, dans les deux cas, on nous dit que les projets amélioreront l'environnement. Dans les deux camps, vous avez des gens de gauche, de droite et même des environnementalistes. Agnès Popelin, que nous allons voir en ligne avec France Nature Environnement, est une opposante de longue date à l'agrandissement sous sa forme actuelle. Et non d'ailleurs à un agrandissement, à Roland-Garros, rappelons quand même que les serres monumentales ne seront pas détruites puisque le projet d'extension n'y met pas les pieds, mais l'ensemble sera amputé, rafistolé.
Au départ, elle devait être attribuée à la SST comme espace récréatif, espace de réception, et nous avons réussi à retirer le périmètre des serres monumentales et du parterre central du futur enclos de Roland-Garros.
Où en est-on à Yespoplein aujourd'hui?
On en est comme sur les cours, mais nous on joue sur le terrain de la justice et donc on en est au recours administratif devant le juge. Et comme la SFT avait commencé les travaux, parce que la SFT pour l'instant a la concession, donc elle a le droit de faire des travaux. Elle est comme allocataire, si vous voulez, pour la ville de Paris, et la ville de Paris l'a autorisée à faire les travaux avec la délivrance du permis de construire. Donc nous, ce que nous avons démontré au juge administratif par une procédure qui s'appelle le référé suspension, que les travaux qui consistaient à faire tomber les serres chaudes, qui abritaient avant les collections botaniques les plus précieuses, ces travaux devaient donc les détruire, et nous avons fait un référé pour faire stopper les travaux. Au motif de nos arguments juridiques, nous cessons de répéter depuis 5 ans, presque 6 ans maintenant, et le juge des référés les a estimés recevables. C'est-à-dire qu'il a estimé qu'il y avait des motifs sérieux pour douter de la légalité du permis de construire attribué par la ville de Paris.
Donc ça va être quoi demain? Parce que donc là, le directeur général aussi donc de Roland-Garros dit, bon, ça va être une question de recours, ça va être une question de temps, mais normalement, on devrait quand même pouvoir y arriver à agrandir comme nous le souhaitions.
Mais là, Monsieur Forget est arrivé récemment, hein. Il est arrivé au courant premier trimestre 2016. Je crois qu'il n'a pas pris toute la mesure de la complexité du sujet, de l'extension, puisque effectivement, ça va être une affaire de patience. Mais ce qui est dommage, c'est que Monsieur Forget, comme son prédécesseur, Monsieur Isère, ne comprennent pas l'intérêt de l'échange. C'est-à-dire que nous leur proposons une autre extension sur l'autoroute A13. Et au regard des enjeux climatiques actuels, et on le subit par les crues, par les pluies violentes, les épisodes violents climatiques qu'on subit pas forcément maintenant, mais qu'on suit toute l'année, il est évident que Paris doit changer sa politique d'artificialisation des sols. Et ce n'est pas en bétonnant l'espace vert qu'on va résoudre le problème du réchauffement climatique. Donc nous proposons de créer un nouvel espace vert arboré en couvrant l'autoroute et en fichant la paix à ce jardin botanique si précieux qui existe depuis Louis XV.
Alors, c'est à quoi on va vous dire aussi que l'hectare du stade actuel sera transformé par la Fédération de tennis en jardin public, même en dehors des périodes de tournoi.
Alors, oui, ils vont faire un beau carré d'espace vert avec des plantes de décoration qu'on achète au marché, comme vous savez tous faire d'accord. Dans votre jardin. Je voudrais juste vous demander si vous faites une différence entre un jardin botanique avec des arbres centenaires et une simple pelouse fleurie. Donc, ça n'a rien à voir de détruire une bibliothèque du vivant, qui est un jardin botanique, et de proposer en échange, en compensation, un simple espace ludique pour se promener le dimanche.
Suite au prochain numéro, donc, de nouvelles aventures. Merci à vous, Agnès Poplin. Et on va, comme le disait subtilement donc Dominique Delarroy, avant de couper les cheveux en quatre, je vous propose Émilie Loiseau, choisie par Thierry Dupin, notre programmateur, Bobby Chéri.
Chérie, vous souvenez-vous de moi? Cette musique sonnait mieux autrefois. Oh my baby, chanteriez-vous quelques notes avec moi pour le reste de la vie? J'en ai mangé des guimauves, mais ce soir j'en ai ma dose. J'ai jeté toute la bibliothèque rose. Oh my baby, oh mon kamikaze, mon Bobby chéri. Quelque chose, vous et moi, que les autres n'ont pas. Oh my baby, shall we play another game, you and me, pour le reste de la vie? J'en ai mangé des guimauves, mais tu vois, j'en ai ma dose. Je te bade, vas-y, fais quelque chose. Oh my baby, oh mon kamikaze, mon Bobby chéri.
est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont sourdes?
Énormément. Marilyn Monroe.
Enfin.
Marilyn Monroe. Comme ça, comme un œuf.
Ça, c'est les soucis, ça.
Non, c'est pas vrai.
Et c'est vous qui avez fabriqué les perruques pour Marilyn Monroe?
Non, non. En revanche, j'ai travaillé pour le général de Gaulle.
CO2, mon amour.
Il voulait changer de personnalité. J'ai fait un très joli beaucoup.
Pardon.
Un très joli beaucoup.
Un bouc?
Un boucrou?
Non, il ne s'en est jamais servi, je crois.
Non, c'est pas
vrai. Bien sûr, on s'en souviendrait, hein, forcément.
Oui.
Avec Denis Chessoux. Sur France Inter.
Ah bah oui, non, mais ça, les bronzés font du ski, ça nous fait de l'usage, hein. Et oui, on les attendait pas forcément là, mais c'est cela. Alors, juste avant de retrouver à la fois Anne-Marie Gabellica et Jacques Mainjolet, donc ici en direct dans ce studio. Donc, on va vous parler évidemment de coiffure aujourd'hui, de la beauté, la coiffure, le bien-être, naturellement. Mais est-ce que coiffure, cosmétique, chimie, et puis positions qui sont pas forcément bien adaptées, font-ils bon ménage quand on manipule tout ceci, donc à longueur de journée? Alors, bonne nouvelle quand même, des salons de coiffure s'engagent en faveur du développement durable, donc ce mot-là est un mot valise aujourd'hui, mais peu importe quelle va en être la traduction. Et je vous propose d'abord d'aller chez Patricia Faury, qui se trouve à Périgueux, chez Bio Air Punch, et voir avec elle ce qui est nuisible au coiffeur pour sa santé.
Ah oui, bah, prévention des maladies musculosquelettiques, tout de suite. C'est-à-dire que tous les fauteuils, tous les espaces, quels qu'ils soient, ouais, sont tous choisis pour être dans le maximum de confort pour le personnel et aussi pour la clientèle. Donc tous les fauteuils sont à pompe, tous les fauteuils se règlent suivant la grandeur du client ou de la cliente. J'ai des filles qui sont plus grandes les unes que les autres, il faut que tout s'adapte. Les bacs sont complètement changés, le bac épouse le corps de la personne et on se sent bien. Même moi, j'ai plaisir à y aller, alors qu'avant j'étais toujours voûtée, etc. C'était compliqué.
C'est grâce à Dop si tous les cheveux deviennent merveilleux, brillants et soyeux. C'est un shampoing comme il n'y en a pas deux qui rend le cheveu souple et vigoureux.
Alors je vois aussi donc évidemment des shampoings, de quoi faire des colorations diverses et variées. Là aussi, c'est très important parce que vous avez été assez pionnière et vous avez travaillé là-dessus.
Ça fait des années que je travaille avec des colorations végétales. C'est-à-dire que c'est des poudres de plantes mélangées avec de l'eau chaude que nous travaillons et que nous préparons devant les clients, justement pour leur prouver que c'est bien ça. En plus, ça a des odeurs extraordinaires. On a même des possibilités d'éclaircir le cheveu avec de l'argile. Nous avons des produits qui sentent le bonbon, qui sentent la réglisse, c'est extraordinaire. Les huiles essentielles, c'est merveilleux.
Donc ça veut dire que, d'un point de vue santé, c'est évidemment nettement meilleur pour les salariés qui vont utiliser ces produits au quotidien et de nombreuses fois. Bien sûr aussi pour le client, mais enfin le client il n'y passe pas non plus forcément 8 heures par jour.
Oui, c'est fondamental pour tout le monde, on se sent beaucoup mieux. C'est ce plaisir aussi de rentrer dans l'entreprise qui, où il n'y a plus ces odeurs qu'on avait quand j'étais petite fille. Ça, c'était même on passait dans la rue, on avait ces odeurs qui sortaient des salons de coiffure. Oui. Tout ça non, c'est un univers zen.
Alors on a commencé par la santé, mais il y a aussi quand même des économies que vous avez réalisées bien comme il faut, parce que un salon de coiffure, c'est évidemment de l'électricité et c'est aussi donc de l'eau. Et puis après, c'est de l'eau aussi qui va se déverser ailleurs. Qu'est-ce que vous avez fait ?
Déjà, pour économiser de l'eau, on utilise ne serait-ce que des mousseurs, ouais, ce qu'on peut faire tous à la maison, d'ailleurs.
Et 40 à 50% à peu
près. Oui, tout à fait. Et pour l'électricité, eh bien toute l'entreprise, on l'a petit à petit, bien sûr, hein, tout transformé en LED. J'étais ravie les premières années quand on a commencé à m'écrire que j'avais trop payé chaque mois et qu'on me remboursait. C'est que du bonheur.
Alors vous avez été une des premières donc labellisées. Vous avez fait des petits.
De Dordogne. Oui, on a fait des bébés.
Quels ont été les arguments que vous avez donnés?
J'ai tout simplement parlé de ce que je vis, des avantages de l'entreprise, du bienfait par rapport au personnel. Et surtout, je crois que c'est surtout les économies d'énergie. J'avoue que tout le monde réagit. Quand je leur dis, écoutez, sur votre facture, ça sera complètement différent.
Porte-monnaie et santé?
Oui, tout à fait. C'est évident, hein. Santé, c'est normal, hein, parce que si notre personnel part en maladie les uns après les autres, on fait comment? Franchement, je l'ai vécu. C'est minimum 2 mois et demi. Minimum.
Qu'est-ce que tu dis, Nicole? T'as changé de coiffure? Beaucoup de coiffure. Tu veux que je te dise ce que j'en pense? Alors attention, c'est la surprise. Je les ouvre. Je les ouvre. Putain. Attends, Nicole, tu veux dire que là, t'es coiffé?
Patricia Fauri, au-delà de tout ça, est-ce que l'on gagne de la clientèle qui est quand même de plus en plus sensibilisée à l'environnement? Est-ce que c'est un argument, ça?
Oui, tout à fait. On a des gens qui viennent de plus de 50, voire 70 km, parce que maintenant, on est avec des colorations végétales. Même si, alors on prend le temps de leur expliquer que, effectivement, c'est une réaction sur le cheveu différente, ça va prendre plus lentement, ça, c'est une autre démarche. Néanmoins, quand on leur explique bien, ils comprennent bien que c'est pour leur santé, pour la santé de leurs cheveux, parce que le cheveu, il est complètement différent après. Il est brillant, il est agréable, il est vrai. Et ça, c'est important.
Donc là aussi, ça.
Ah, totalement. C'est elles ont le recul. Bien sûr, les premières fois, quand elles arrivent chez nous et qu'elles ont eu de la chimie en amont, c'est bon, il faut 3-4 mois pour qu'elles voient vraiment la différence. Okay. Mais c'est une éducation, autant du personnel que de la clientèle.
Voilà, donc Patricia Fauri à Périgueux, donc un des 37 000 salons aujourd'hui en France, qui représente 100 000 salariés. On peut rajouter 30 000 auto-entrepreneurs et coiffeurs, je vous le disais, donc 1 million de clients quand même par jour. Bonjour Jacques Majolet.
Bonjour Denis Chessou.
Vous êtes le directeur des institutions sociales de la coiffure, donc qui va regrouper retraite, prévoyance et santé complémentaire, membre du groupe AG2R La Mondiale, donc directeur des institutions de la coiffure. Quel constat vous avez fait aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'il y a des sujets qui pouvaient être tabous. Heureusement, ils ne le sont plus aujourd'hui.
Eh bien, les différents constats qu'on ait, d'abord à entendre le témoignage de Patricia, le premier constat, c'est que c'est une profession vivante, une profession de proximité. Et avec 1 million de clients par jour, pas chez Patricia en particulier, mais chez les coiffeurs en général, on a une proximité entre l'attente des citoyens et la réalité des coiffeurs, qui, eux, sont très sensibles. Ce sont d'abord et avant tout des citoyens. Et donc, par rapport à ça, les constats qu'on fait, c'est qu'ils réagissent comme des citoyens. Ils font attention, et leur engagement développement durable pour bon nombre d'entre eux est une motivation, ils font attention à leur consommation d'eau, à la consommation d'énergie. Patricia Fauri évoquait aussi tout ce qui touche à l'ergonomie des salons, à l'ergonomie des équipements, et là il faut remercier l'assurance maladie des risques professionnels qui a largement accompagné la profession. En subventionnant et en accompagnant l'achat de matériel, et ça a ses effets, grâce à des études qu'on est en train de mener. Les politiques de prévention ont des effets. Et puis aujourd'hui, ils sont très attentifs aussi à tout ce qui touche aux produits. Et les produits, c'est probablement la source la plus inquiétante de l'exercice du métier, dans la mesure où ces produits ne sont pas neutres ni sur la santé, ni sur l'environnement.
Alors qu'est-ce que l'on constate quand même aujourd'hui? Ou alors peut-être vous, Anne-Marie Gabellica, parce que vous êtes avec nous, vous êtes biochimiste, vous avez travaillé pendant 7 ans dans un grand groupe de cosmétiques, depuis 13 ans vous suivez la législation sur les cosmétiques, et vous avez créé Oolution, c'est-à-dire une marque 100%, on va dire, naturelle. On verra ce qu'il y a derrière ce mot, donc vous êtes vraiment une start-up indépendante, vous suivez cela. Qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui?
Oui, alors effectivement, il y a bon nombre de coiffeurs qui se posent des questions tout à fait citoyennes, mais malheureusement, une grande partie n'est pas encore suffisamment informée sur les produits que les grandes marques leur vendent, puisque Patricia évoquait à juste titre la coloration naturelle végétale qu'elle fait à base de poudre de plantes. Vous savez, des poudres de plantes, vous savez, c'est plein de couleurs, c'est vraiment ce qu'on appelle les plantes tinctorielles. Donc ça, c'est magnifique. Ça n'a rien à voir avec cette crème blanchâtre qui sent mauvais que l'on va s'appliquer sur les cheveux. Et en fait, la plupart des produits que vous trouvez à la fois dans le commerce ou chez le coiffeur, ce sont des colorations qui se disent végétales parce que le terme n'est pas du tout réglementés et qui en réalité sont 100% chimiques et contiennent à l'intérieur des substances.
Végétal, c'est 100% chimique.
Ah ben oui. Et aujourd'hui, les colorations qui sont dites végétales, c'est une, comment dirais-je, une appellation purement marketing. Ouais. En réalité, une vraie coloration végétale, ce n'est pas jamais une crème blanchâtre. Ça va être toujours une poudre de plantes colorante. C'est ça qui est très important à comprendre. Dès lors qu'on vous applique une crème un peu blanchâtre, ce n'est pas une coloration naturelle.
Jacques Majolet, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui quand même comme maladie au-delà des troubles musculo-squelettiques, où là on comprend très bien, c'est des questions de position, mais en ce qui concerne un peu les produits, parce qu'il est très difficile de dire que tel produit va déclencher évidemment une maladie. C'est pas, aujourd'hui c'est pas possible de dire
ça. Non, c'est ça, c'est pas systématique d'une part, et tant mieux.
Et tant mieux, évidemment, bien sûr.
Voilà. Et puis je crois qu'il faut distinguer deux choses. L'impact du produit sur la cliente. Or, l'on sait que tous ces produits chimiques, cosmétiques, passent un certain nombre d'évaluations scientifiques. Ces évaluations sont faites pour une utilisation dans le domaine privé, à raison de 4 à 5, 6 colorations par an pour une cliente, voilà.
Alors ça, c'est une chose, mais après, il y a les salariés.
Voilà. Alors ensuite, c'est la problématique.
Parce qu'ils sont en contact tous les jours.
Absolument. Et la problématique, elle est vraiment sur les salariés. Parce que les tests d'évaluation scientifique ne sont pas faits pour une utilisation récurrente Et quand je vous parlais de 4 à 5 colorations par an pour une cliente, pour une coiffeuse, c'est 4 à 5, voire 6 par jour.
Oui.
Et alors là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Quand on a 5 à 6 colorations ou décolorations, défrisages, shampoings, et plus hein, par jour, là commencent à apparaître des vrais problèmes. Des vrais problèmes parce que les produits ne sont pas testés pour ça. Et on voit apparaître de l'asthme, on voit apparaître des rhinites, on voit apparaître des allergies respiratoires, des allergies cutanées. Mmh. Et donc c'est vrai que on sait que ces produits passent dans le sang, passent la barrière cutanée. Là, un salon de coiffure, c'est un salon en milieu humide, avec donc une fragilité de la peau de par le milieu humide.
Ça va encore plus vite.
Ça va encore plus vite. Alors bien sûr qu'on peut mettre des gants, mais un gant c'est aussi un milieu humide. Quand on le porte 2 à 3 heures, 4 heures par jour, c'est un milieu humide en soi. Donc on voit que dans la population des coiffeurs, en gros 10% d'entre eux, des salariés, 10 à 15% d'entre eux, se plaignent d'allergies respiratoires ou cutanées.
Oui. Et alors c'est pas toujours simple parce que lorsque l'on est donc salarié, on peut avoir des problèmes si on se déclare après l'assurance maladie.
C'est pour ça qu'on a une sous-déclaration au niveau de la sécurité sociale. C'est-à-dire, vous êtes coiffeur ou coiffeuse. Vous allez voir un médecin du travail et vous lui dites, voilà, j'ai une allergie cutanée ou j'ai une allergie cutanée. Eh ben, c'est réglé. Vous êtes déclaré très probablement inapte. Dans un salon de coiffure, en moyenne, à 2 à 3 salariés, la notion de déclassement, de toute façon, vous ne pouvez plus exercer la profession. Ne pouvant plus exercer la profession, eh bien, vous allez quitter la profession. Donc, c'est vrai que là, il y a une problématique. On a moins de déclarations auprès du régime de base qu'on a de déclarations lorsqu'on interroge les salariés.
Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter, j'ai enregistré donc hier deux personnes. On va commencer par Virginie D'Enfer, qui est la directrice des affaires économiques internationales et environnementales. Elle sera davantage sur l'aspect environnemental que, disons, sur l'aspect santé, de la Fédération des entreprises de la beauté, donc qui regroupe 6 syndicats, dont celui des fournisseurs pour les coiffeurs. Bon, je précise que les principaux fabricants de produits, dont L'Oréal, ont préféré faire parler leur syndicat que de parler donc directement ici sur France Inter. Donc évidemment que cette fédération défend les intérêts de la profession. Et que dire donc de ces produits utilisés, Virginie D'Enfer?
D'abord, on est un secteur qui est extrêmement réglementé. Il y a une partie, clairement, qui est un règlement au nom barbare qui s'appelle REACH, un règlement européen, et qui encadre l'utilisation des substances chimiques, synthétiques ou naturelles, de tout produit qui est mis sur le marché. Ils sont conformes au règlement européen REACH, donc ils ont été évalués pour leur sûreté d'un point de vue environnemental.
Oui, à part que effectivement, ce sont les mêmes entrepreneurs qui doivent vérifier cette sûreté. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des organismes indépendants pour vérifier cela aujourd'hui?
Tout à fait. C'est un règlement européen, donc c'est bien la Commission européenne qui va valider ou pas l'ensemble de ces données. Effectivement, nous on fournit les données, mais il y a un contrôleur derrière, il y a un gardien derrière. Maintenant, il y a les travaux que font les entreprises de façon individuelle et de façon volontaire.
Il y a une pression publique quand même derrière.
Il y a une pression publique. Il y a quand on vend des produits d'hygiène, mais surtout de bien-être et d'estime de soi, on a et les entreprises ont la responsabilité de limiter l'impact environnemental de leurs produits, très clairement. Mais pour diminuer cet impact environnemental, il faut le mesurer. Et là, ce sont un certain nombre de démarches qui ont été volontairement entreprises par les marques de cosmétiques. Suite au Grenelle de l'environnement, il y a eu une expérimentation qui a été lancée par le ministère de l'Industrie sur la mise au point de méthodologies normatives de calcul des impacts environnementaux des produits, basés sur une analyse des cycles de vie. Et aujourd'hui, les efforts de nos entreprises vont bien vers le développement d'ingrédients biodégradables et qui minimisent l'impact sur l'environnement une fois qu'on l'a mesuré.
Alors, donc, si on écoute Virginie d'Enfer, on a un discours quand même qui est assez rassurant, Anne-Marie Gabellica. On se dit, elle dit pas que tout va bien, mais voilà, enfin, ça fonctionne. Qu'est-ce que l'on peut dire?
C'est toujours la même rhétorique, en fait. Quand on se rend compte de la réponse de ce type d'industriel, on est toujours sur la même rhétorique en se disant, on respecte la réglementation européenne. Mais il faut bien comprendre quelque chose. Le législateur, lui, n'est pas un expert, n'est pas un scientifique. Donc, il va souvent s'aider d'une commission d'experts. Et souvent, lorsqu'on examine qui sont les experts, on se rend compte d'une collusion très, très troublante entre ces experts et les industriels pour lesquels on veut.
On l'a vu à l'EFSA, ça c'est sûr.
Exactement.
Il y a 60% des gens de l'EFSA donc, qui étaient en collusion avec.
En conflit d'intérêts, très clairement marqué. Oui. Et c'est pour ça que c'est tout à fait intéressant de voir à quel point on se retranche derrière une réglementation qui en réalité est façonnée aussi par les industriels. Donc ça c'est vraiment très problématique. Et moi j'ai l'habitude de dire, la plupart de ces personnes, ces industriels ou les syndicats d'industriels qui les défendent, nous disent. Mais voilà, ces substances-là n'ont pas démontré de propriétés dangereuses pour la santé ou pour l'environnement. Alors moi, je dirais, attendez, avant de mettre ces produits sur notre corps, démontrez-vous à nous que ces produits sont totalement sans danger. Mmh. On devrait faire cela dans ce sens-là et pas dans l'autre.
Alors je vous propose maintenant d'écouter Anne Dux, qui est la directrice des affaires scientifiques et réglementaires, toujours donc dans cette fédération des entreprises de beauté. C'est du lourd, hein, si vous voulez, cette fédération. Donc ça, c'est au total, c'est 11 milliards de chiffre d'affaires en 2015 pour le marché de l'ensemble des cosmétiques, pas spécialement la coiffure, mais l'ensemble des cosmétiques. C'est 50 000 emplois directs, 170 000 emplois donc indirects et donc 300 adhérents.
Je dois... Pour commencer, rassurer vos auditeurs, les produits de coloration capillaire sont des produits sûrs pour eux en tant que consommateurs et également pour les coiffeurs, dès lors que les coiffeurs respectent les précautions d'emploi qu'on leur transmet, qui figurent également pour les consommateurs qui utilisent directement des produits de coloration capillaire. Qui a marqué l'évolution de ces 40 dernières années en matière de coloration capillaire ? C'est la révision de la totalité des colorants utilisés. Donc l'industrie cosmétique européenne a fourni plus exactement au comité d'experts indépendants auprès de la Commission européenne une réévaluation de la totalité des colorants capillaires utilisés, ce qui fait qu'on en a abandonné un certain nombre et qu'actuellement on utilise des colorants qui sont tous reconnus sûrs par une autorité indépendante. Le problème majeur que posent les colorations capillaires, c'est pas un problème dû à ces colorants, c'est un problème dû à la substance qui s'appelle la PPD et qu'on utilise pour soulever les écailles des cheveux, pour aller glisser la coloration sous les cheveux. Parce que pour qu'une coloration soit permanente, il faut arriver à glisser les colorants sous les cheveux, donc à faire soulever les écailles et mettre le colorant dessous. Donc cette PPD est à l'origine d'un nombre de réactions allergiques.
Oui, c'est ça, ça provoque pas mal d'allergies, c'est ce qu'on voit.
Ça provoque des allergies, on estime qu'il y a à peu près 1% de la population européenne qui est allergique à la PPD. Ça a trois conséquences. D'abord, on a diminué les concentrations de PPD dans les produits pour qu'il y ait moins de gens allergiques. Et ça, c'est un effort qui a été fait en matière de formule pour diminuer la quantité. La deuxième conséquence qu'il y a, c'est que les coiffeurs qui font 5-6 colorations capillaires dans la journée doivent impérativement porter des gants.
Oui.
Pour éviter qu'ils deviennent allergiques au contact de cette PPD, d'autant que, étant coiffeurs, ils ont souvent les mains mouillées, et donc on sait que le fait d'avoir les mains mouillées, humides, favorise l'allergie. Donc ils doivent porter des gants. Dans les packs de coloration qui sont vendus aux consommateurs, on trouve des gants également pour que le consommateur se protège. Et la troisième conséquence, c'est que les consommateurs doivent faire ce qu'on appelle une touche d'essai, avant de se faire une coloration capillaire qui consiste à appliquer une petite quantité de colorant derrière l'oreille.
Pour voir s'il y a une réaction.
Voilà, parce que le vrai sujet de la coloration capillaire, la vraie préoccupation, c'est la réaction allergique. Et le problème auquel on est confronté, et j'avoue que les fabricants ne savent pas très bien comment faire face à ce problème, c'est le fait que les consommateurs qui sont allergiques et qui donc ont des réactions de brûlure et d'irritation lorsqu'ils se font des colorations capillaires, continuent à s'en faire. Malgré tout, ce qui peut conduire à des réactions très 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 important.
Alors c'est quand même reconnu maladie professionnelle aujourd'hui avec la PPD. On se demande quand même pourquoi cette molécule est encore autorisée.
On n'a pas de molécule de substitution. Voilà. On n'a pas trouvé d'autres molécules qui permettent de faire cette coloration dite permanente. Alors vous allez m'expliquer qu'on trouve d'autres colorations sur le marché. Alors bon, il y a une molécule qui est dérivée de la PPD mais qui pose exactement le même type de problème. N'en parlons pas. On trouve effectivement sur le marché des produits qui mettent mettent en avant l'absence de PPD, mais ce ne sont pas des colorations permanentes. Alors, en particulier, dans les colorations dites bio, il y en a une partie où il y a toujours de la PPD, où en fait la partie bio de la coloration, c'est le colorant qui est d'origine végétale, au lieu d'être issu de la pétrochimie. Mais les colorations qui sont dites bio sans PPD, à base de henné le plus souvent, ne sont pas des colorations permanentes. Donc en fait, c'est des colorations qui disparaissent au bout d'une petite dizaine de shampoings, ce qui correspond pas à l'attente de la majorité des consommateurs.
Qu'est-ce que l'on peut dire de l'ammoniac aussi? Parce que donc 60 millions de consommateurs ont fait donc son test, on le sait, l'année dernière. Donc ils avaient remarqué qu'à peu près la moitié des teintures capillaires avaient de l'ammoniac.
Alors l'ammoniac, c'est ça, le problème que pose l'ammoniac, c'est que quand c'est utilisé à très forte concentration, ce qui n'est pas la concentration dans les produits de coloration, c'est irritant sur le plan respiratoire. Et d'ailleurs, quand c'est utilisé à des concentrations plus faibles, comme dans les produits de coloration, on sent l'odeur, c'est pas une odeur agréable. Il est possible de faire des colorations sans ammoniac, mais l'ammoniac est remplacé par une autre substance qui participe à cette fameuse réaction d'oxydoréduction. Voilà, donc il y a des colorants sans ammoniac, et l'ammoniac étant remplacé par autre chose.
Et puis il y a aussi d'autres molécules, pardonnez-moi, donc il y a le para-aminophénol, donc qui a été classé mutagène en catégorie 2 dans le règlement européen, bon, et qui est quand même considéré quand même comme étant assez dangereux, donc avec des effets mutagènes possibles.
Alors, toutes les substances qui sont utilisées dans des produits cosmétiques, en particulier toutes les substances de coloration capillaire, font l'objet d'une évaluation par un comité scientifique indépendant. Et quand vous dites qu'une substance est mutagène, d'abord, je vous rappelle que dans un produit cosmétique, la règle de base, c'est qu'on n'utilise pas de substances cancérigènes et mutagènes. La seule exception qu'il y a à cette règle, c'est que pour les substances dont on n'est pas sûr du caractère cancérigène, qui sont classées dans le risque le moins prouvé, si le comité d'experts indépendants considère que aux concentrations utilisées dans les produits cosmétiques ils sont sûrs, on peut les utiliser. Mais ça n'est qu'à cette condition-là. On n'utilise pas de substances cancérigènes dans un produit cosmétique. Les seules exceptions, je vous dis, c'est celles qui sont pour lesquelles on a le moins de preuves, le moins d'arguments en faveur du risque cancérigène ou mutagène et pour lequel il y a un comité d'experts complètement indépendant qui n'a aucun rapport avec l'industrie qui s'est prononcé pour dire que cette substance était sûre.
Anne Dux, que peut-on dire aussi des nanomatériaux dans les cosmétiques?
Alors les nanomatériaux, on en utilise assez peu dans l'industrie cosmétique. On en utilise en gros deux comme filtre solaire et qui sont le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc et 4 ou 5 comme colorants. Donc le consommateur est tout à fait informé de la présence de ces nanomatériaux. Et d'autre part, ils sont tous déclarés et donc font l'objet d'une évaluation par ce comité scientifique européen qui donc a évalué depuis 4 ou 5 ans progressivement, parce que c'est assez long, les nanomatériaux qu'on utilise dans l'industrie et donc les a reconnus comme sûrs. La seule restriction qui existe concerne leur usage en aérosol, ou plus exactement sous une forme qui pourrait conduire à l'inhalation de nanoparticules.
Oui, merci beaucoup donc Anne Dux. Alors Anne-Marie Gabellica, donc petite réaction par rapport à cela.
Oui, toujours à nouveau la même rhétorique où on se réfugie derrière une loi qui est clairement tirée vers le bas par les lobbies à l'échelle européenne. Donc c'est toujours très triste et moi c'est un message où on commence à me dire je voudrais vous rassurer. Déjà, ça, je trouve ça assez inquiétant puisque elle fait tout à fait son boulot, mais c'est à mon avis un discours qui ne prend pas du tout à bras le corps la responsabilité que l'industrie cosmétique dans son ensemble a au regard de la santé humaine et de l'environnement. Donc cette dame-là. Donc
vous expliquez, vous savez, ils ont fait des progrès, ils ont beaucoup diminué. Maintenant, vous avez des teintures qui ne sont plus avec de l'ammoniac. Vous voyez.
Donc... Oui, mais en fait, l'ammoniac, c'est même pas une substance si problématique que ça. En réalité, quand elle dit qu'il n'y a pas de substitut au PPD, c'est faux, parce que le PPD a le même rôle que l'ammoniac.
Que l'on a découvert, hein, c'est une nouvelle acronyme pour nous.
Et en fait, tout ça, ça permet d'ouvrir les fameuses écailles des cheveux. Donc, en réalité, ces molécules-là, c'est juste des molécules qu'on appelle alcalines. C'est le contraire d'acide. Donc, voilà, et ça permet d'ouvrir le cheveu. Et il y a plein de molécules qui font ça. Donc, quand on dit déjà qu'il n'y a pas de substitut, c'est tout à fait faux. Et par ailleurs, on parle uniquement d'un problème d'allergie, parce que c'est un problème visible. Les gens peuvent le voir directement. Mais en réalité, Le vrai enjeu de fond qui se joue dans les cosmétiques et notamment dans la coloration, c'est l'enjeu de perturbation endocrine. Et là, on a énormément de molécules qui sont dans nos colorations capillaires qui ont un rôle de perturbateur endocrinien. On n'a pas cité le résorcinol encore. Pourtant, le résorcinol est un perturbateur de la thyroïde avéré, un perturbateur immunitaire et aussi un neurotoxique. Donc, donc c'est excellent puisque c'est, vous allez l'appliquer directement sur votre cuir chevelu, donc sachant que la peau n'est pas du tout imperméable. Donc imaginez les effets que ça fait. Et aujourd'hui, ce produit-là, par exemple le Resorcinol, se trouve dans des colorations qui sont appelées et revendiquées marketingement comme coloration végétale. Là, on est au summum du cynisme.
Donc on a intérêt à regarder de toute façon les, ce qu'il y a une fois de plus avec les petites lignes sur nos différents produits. Bon, la fédération vous dira que le Resorcinol, bah, c'est pas un perturbateur endocrinien, enfin en tout cas c'est pas complètement avéré. Jacques Majolet, je me retourne vers le directeur des institutions sociales de la coiffure que vous êtes. En fait c'est un jeu à trois qui est en train de se passer parce que aujourd'hui la conscience environnementale monte aussi avec le lien santé-environnement. Et donc là, ça nous concerne tous, hein, même si c'est davantage des colorations, on va dire, pour les femmes, mais enfin les hommes en font aussi. Donc ce jeu à trois, quel est-il quand même là?
Oui, ce jeu à trois, il est incontournable. Et ce jeu à trois, il est d'abord avec une profession, la coiffure, qui mène depuis une quinzaine d'années des politiques de prévention. Car c'est une profession qui a envie de faire son métier et de le faire dans de bonnes conditions. Mmh. Il n'est pas normal qu'un jeune de 18 ou 20 ans qui cesse un métier au motif que les produits utilisés vont mal. D'ailleurs, je voudrais revenir sur ce que disait Madame Dux, parce que le comité scientifique qu'elle évoque, européen, a quand même constaté que sur 37% des substances considérées sans risque pour le consommateur, 37% de ces substances étaient à risque pour les professionnels. On a donc un décalage.
Ah oui.
On a donc un décalage entre l'utilisation pour le consommateur et l'utilisation pour le professionnel. D'où la pertinence des politiques de prévention. Deuxième acteur qui est fondamental, c'est l'acteur citoyen, c'est l'acteur consommateur, c'est l'acteur client. Et je crois qu'aujourd'hui, moi ce qui m'interroge, c'est quand on voit une entreprise comme Volkswagen, elle s'est pas fait arrêter parce qu'elle a des mauvaises voitures. Elle se fait arrêter parce qu'elle pollue. Et je crois que ça, cette conscience citoyenne que nous avons tous aujourd'hui, nous la partageons. Et le million de clients par jour, il veut être sûr quand il rentre dans un salon de coiffure, une touche d'essai, oui, pourquoi pas, mais il faut quand même voir, c'est 48 heures avant, d'accord ?
Ah,
d'accord. 48 heures avant, sans ouais. protocole commun à tous les fabricants, et une observation par un coiffeur qui n'est pas un dermato. Alors demandez aux dermatologistes ce qu'ils en pensent, qu'un coiffeur fasse une touche d'essai et observe la réaction d'un corps par rapport à un produit chimique. Je clôt là le débat.
Oui.
Donc c'est vrai que les clientes, les clients, ceux qui vont dans un salon de coiffure, qui est d'abord un salon de détente, un salon de plaisir, mmh. ils n'ont pas envie d'être embêtés par la technique. Et quand on entend nos débats et les témoignages des industriels, bon.
On a donc des clients qui disent, bon, j'ai eu ça comme irritation, c'est vous, coiffeur, qui êtes responsable.
Ah, ça c'est la question. Qui est responsable?
Voilà.
Le coiffeur qui n'aura pas fait la touche d'essai 48 heures avant.
Et l'industriel qui a vendu le produit de coloration au coiffeur. Là, c'est la
vérité. Donc voilà, donc la cliente, c'est important. Et puis le dernier, nom d'une pipe, c'est quand même le fabricant. Il devrait changer un peu de logiciel et commencer à se dire, eh ben avec vous, nous allons travailler sur des produits moins agressifs, moins nocifs pour la santé. Tout le monde ne demande que ça.
Exactement.
Et ça fait partie de la belle profession de la coiffure.
Joe Jackson sur France Inter, un petit tcha-tcha loco. Allez, soyons fous, c'est au-dessus de mon amour. Attention à vos cheveux.
cha 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 loco, 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 cha 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 loco.
Enjoy the food, so many courses. Enjoy the dance, they don't shoot horses. Cha-cha loco.
J'étais coiffeur, spécialiste de brushing, mise en plis. Mais j'ai été, moi, et j'ai fait l'épilation de Marlène Jobert, je l'ai vu. Non, mais moi, je connais le maillot, je connais tout ça. Mais je maîtrise totalement.
CO2, mon amour.
Et Nuc de Joe Dassin, n'oublions jamais que je suis le seul acteur français qui a fait la Nuc de Joe Dassin.
Sur France Inter.
Ah bah oui, c'est un régal, hein. C'est presque un jeu, hein. Si vous ne l'avez pas reconnu, bah voilà, donc avec de la poésie aussi plein la bouche, c'est ça qui est formidable. Alors, on va faire un petit tour maintenant, alors à la fois du côté de Molsheim, c'est-à-dire en Alsace, près de Strasbourg, et puis aussi à Chambéry, on va vous saluer Raphaël Mouric chez Alexandre Coiffure, parce que ce label, Mon Coiffeur s'engage, qu'est-ce que c'est s'il vous plaît?
Bonjour Denis. C'est un label pour les coiffeurs qui souhaitent développer une pratique respectueuse de l'environnement. C'est un label qui est audité par EcoCert et qui permet aux coiffeurs de montrer à leur clientèle que eh bien, leur engagement est véritable et fondé.
Alors ça repose sur quoi? Qu'est-ce qui est passé en revue pour que ça fonctionne?
Alors tout ce qui est passé en revue concerne bien entendu tout ce qui concerne les économies d'eau, d'électricité, les déchets, également les produits et puis aussi, point non négligeable, tout ce qui concerne l'ergonomie des postes de travail pour nos collaborateurs qu'on veut garder en bonne santé le plus longtemps possible.
Lorsque l'on parle des produits, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui? Parce qu'on sait très bien qu'il y a quand même de la toxicité aujourd'hui lorsqu'elle est récurrente pour les salariés.
Ah ben moi j'ai déjà réglé le problème il y a déjà assez longtemps et de mieux en mieux je dirais aujourd'hui puisque nous on travaille maintenant sur tout ce qui est coloration par exemple à 80-90% de coloration végétale et de produits bio et naturels. Donc là on a disons éliminé le problème toxicité dans sa plus grosse partie.
C'est-à-dire que vous ne passez pas par les grands groupes que l'on connaît aujourd'hui?
Non, alors les grands groupes n'offrent pas de solution pour ça. Eux, ils se contentent d'appliquer les recommandations et la législation actuelle. Ils vont pas plus loin que ça.
Guy Salomon, vous aussi donc à Molsheim. Donc, quels sont les bienfaits de cet engagement de la part des coiffeurs?
Cet engagement, c'est une prise de conscience également de la nécessité de s'engager pour la planète aussi. L'engagement aussi de pour nos collaborateurs d'être dans une meilleure santé, donc un mieux vivre. Et l'économie qu'on en retire de tout ça, puisque c'est des investissements qu'on fait, une clientèle qui prend conscience de ce défi, un défi énergétique, que c'est le défi de la santé également.
Alors est-ce que c'est une demande aussi pour tous les deux de la part de la clientèle? Vous leur proposez ça? Vous leur dites, on essaie de travailler le mieux possible, le moins mal possible, on améliore les process, comme on dit, mais est-ce que c'est une demande de la clientèle?
Nous, en ce qui nous concerne, il y avait longtemps que les clientes avaient remarqué qu'on avait axé certaines de nos pratiques vers quelque chose de plus respectueux. L'obtention du label, ça nous a vraiment permis de cadrer toutes ces situations et de leur dire, bah voilà, vous aviez remarqué ceci et cela, ces pratiques respectueuses, et bien maintenant, voilà, elles font partie d'un cadre et d'un label. Et c'est vrai que pour notre part, en tout cas à Chambéry, on a une vraie reconnaissance de notre clientèle sur ce label développement durable.
Et chez Artmodia Coiffeur, donc chez vous à Molsheim?
Oui, notre engagement date aussi de 2010, hein, quand le label et la certification Mon Coiffeur s'engage a été créé. Moi, mon engagement plus tard dans les produits, la prise de conscience des produits meilleurs pour la santé, donc qu'ils soient moins impactants aussi pour la nature, est venu au fur et à mesure, étant donné qu'on a des problématiques aussi de couverture des cheveux blancs, par exemple, etc. Donc il fallait que je trouve la marque ou en tout cas les fournisseurs qui sont suffisamment professionnels pour arriver à cette couverture et un bon résultat. On parlait tout à l'heure des grands groupes. C'est vrai que je travaille moi encore avec des grands groupes. C'est normal. Moi, ce que j'attends aussi des grands groupes, c'est de donner l'impulsion pour qu'il supprime au fur et à mesure les produits les plus, comment dire, néfastes ou en tout cas impactants pour la santé.
Raphaël Mouric à Chambéry.
Ce que je remarque aujourd'hui avec ce label et avec la globalité de la démarche, c'est que ce sont finalement les PME qui sont entre parenthèses le plus gros employeur de France qui donnent l'exemple et qui entraînent avec eux éventuellement les grands groupes. Mais enfin, ça commence tout en bas avec des petits fournisseurs français pour ma part, hein, mais qui mettent vraiment tout ce qu'il faut en moyen pour rester respectueux et nous offrir des produits de qualité.
Donc c'est à nous aussi de répondre à cela. Et donc mes clients, par exemple, sont dans cette demande, mais en même temps, il faut faire confiance aux professionnels. Donc c'est à nous d'avoir suffisamment de connaissances sur ces produits pour pouvoir effectivement assurer que nos produits sont les moins impactants ou pas du tout, comme Raphaël et moi, on utilise des produits végétaux, donc ils n'ont aucun impact sur la santé.
Merci à vous deux. C'est intéressant comme témoignage, une fois de plus, hein, en matière d'environnement, c'est souvent de la base que ça part et ça remonte par capillarité. Le mot est bien choisi aujourd'hui. Anne-Marie Gabellica, donc je le rappelle, biochimiste, donc vous avez créé Oolution, et puis donc vous avez été pendant 7 ans dans un grand groupe de cosmétiques qu'on ne nommera pas, mais pourquoi vous faites ça aujourd'hui? Parce que pour vous c'est aussi un combat cette affaire-là.
Ah oui, absolument. En fait, je trouve que c'est aujourd'hui, lorsqu'on a une conscience et lorsqu'on a envie vraiment que sa vie ait un sens, en tout cas, c'est moi, ma volonté. On ne peut pas rester les bras croisés face à des problèmes que l'on voit. Alors moi, vraiment, avec Oolution, on fait vraiment des soins visage. On n'est pas sur la coloration parce que les crèmes hydratantes, on se les met tous les jours. Donc là, les problèmes de composition est encore plus criant que pour des produits que l'on va appliquer toutes les 4 à 6 semaines.
Mais en même temps, il faut quand même le dire, c'est pas des empoisonneurs comme les fabricants, c'est pas ça du tout. On n'est pas là-dedans. Donc.
À mon sens, en fait, il y a un progrès énorme qui doit être fait.
Qu'il a déjà été fait.
Voilà, et plutôt que de rester toujours dans la même rhétorique, ce que je dis, c'est passons aux actions. Et vraiment, les enjeux sont importants. Pour moi, aujourd'hui, par exemple, dans mes soins visage, pour moi, l'obligation, c'est le 100% d'origine naturelle. Parce que lorsque vous êtes dans le 100% d'origine naturelle, déjà, vous éliminez la plupart des substances, si ce n'est quasiment toutes, qui sont potentiellement nocives à la fois, Denis, pour votre santé, mais aussi pour l'environnement. Car en réalité, on le sait bien, ce qui est nocif à la santé est nocif à l'environnement, et inversement. Et ça, c'est pour moi...
On arrive à sourcer ce qu'il faut. Enfin, comme matériel pour parce qu'on dit 100% naturel, enfin, on se méfie un peu de.
Mais tout à fait, on peut faire du 100% d'origine naturelle. Si une petite start-up comme Oolution, qui est totalement indépendante, a réussi à le faire, en partant de la base, nous on retire même les dérivés d'huile de palme pour des raisons éthiques, parce que dans votre shampoing, tous les matins, sans le savoir, vous déforestez. Si nous on l'a fait, ça nous a pris 3 ans de R&D.
Pour faire plaisir à Bolloré, parce que.
C'est pour que nos forêts et notre biodiversité, ainsi que notre climat, soient préservés. Donc en fait, les cosmétiques, c'est pour moi passionnant dans le sens où on a une véritable responsabilité d'ordre sanitaire, environnemental, qui est magnifique. Et au lieu de à chaque fois se retrancher sur des discours pseudo-rassurants, pourquoi ne passons-nous pas à l'action? Pourquoi il y a une vraie jubilation à se dire « Ok, il y a un problème, prenons-le à bras-le-corps et faisons en sorte de créer l'industrie du cosmétique du 21e siècle. » Ça, c'est beau.
Merci beaucoup, Anne-Marie Gabellica. Une petite conclusion aussi, Jacques Majolet, après cet enthousiasme.
Enthousiasme que je partage. Donc, c'est vrai que c'est...
Prévention, ça c'est évident.
La profession a une véritable politique de prévention. Et c'est vrai que je partage cet enthousiasme, je partage cette conviction. Et je crois qu'elle est partagée aussi par les clients. Vous savez, nous avons fait réaliser un sondage. Un Français sur deux est prêt à rejoindre un salon de coiffure labellisé développement durable. Donc, on s'engage. 1 sur 2. Oui. Ça veut dire qu'on est
on a quelques centaines. C'est pas énorme par rapport aux 37 000 salons encore aujourd'hui.
Non, c'est pas énorme. Mais ça vient doucement.
Bien sûr.
Par capillarité, comme vous le disiez, Denis. Ça vient doucement, mais ça vient. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que les clients incitent leur salon de coiffure à rentrer dans cette démarche et à montrer leur engagement citoyen, parce que les coiffeurs ont des engagements citoyens. La seule impasse actuellement, c'est les produits.
Merci beaucoup à vous deux. Les abeilles, ça vous intéresse, hein, bien sûr. Bon, écoutez, on y vient tout de suite. Oui, on y vient tout de suite avec Éric Tourneret. Bonjour cher Éric.
Bonjour Denis, comment vas-tu?
Nous allons bien, on va se vous voyez cher Éric, parce qu'effectivement là vous êtes, je le rappelais, hein, vous avez sorti un ouvrage absolument formidable sur les abeilles, dont vous allez nous rappeler le titre aux éditions Ozani, s'il vous plaît.
Oui, c'est Les routes du miel.
Voilà. Donc vous avez parcouru le monde entier, on va dire, avec ces roues du miel. Et puis nous avons entre les mains, avec notre partenaire Terre Sauvage, ce dossier, le peuple des abeilles, dans ce numéro de juin. Et là, on apprend des tas de choses à chaque fois sur les abeilles. Par exemple, pour sortir 1 kilo de miel, il faut 6000 abeilles qui butinent 5,5 millions de fleurs et qui parcourent 150 000 km. Donc c'est-à-dire 4 fois le tour de la Terre. Donc il y a plein d'informations qui sont assez fortes. En ce moment, évidemment, c'est pas terrible pour les abeilles avec toute la flotte que l'on reçoit, donc c'est pas évident pour la mielée. Comment ça se passe pour vous, parce que vous êtes en Ardèche, je sais que vous êtes dans votre coin là dehors, racontez-nous.
Écoutez, il pleut aujourd'hui encore, des orages, et c'est vrai qu'on a une bonne température, mais le soleil n'est pas là et la mielée tarde à venir, donc c'est pas évident pour les abeilles. Elles manquent de fleurs à butiner.
Alors, lorsque l'on voit dans ce dossier Terre Sauvage, il y en a un, on va dire, un peu sur l'international, c'est-à-dire que l'on part en Turquie, on part dans des pays que vous avez aussi bien connus du côté du Congo. Et puis, il y a quand même l'essaimage. Et là, l'essaimage, il faut bien comprendre ce que c'est. Vous avez une crise du logement à la ruche. Au printemps, là, la reine, elle y va, donc elle est au plus fort de sa ponte. En général, c'est 2000 œufs par jour. Et puis, les alvéoles disponibles se font rares. Donc, il faut aller ailleurs. Comment ça se passe, un essaimage?
Oui, en fin de compte, l'essaimage, c'est la reproduction de la colonie. C'est une autre façon de se reproduire. Donc la reine ancienne commence à se préparer. À côté, les abeilles ont déjà pondu un œuf et élevé une nouvelle reine. Et l'ancienne reine va partir avec la moitié de la colonie fonder une nouvelle ruche.
Et alors donc, après, ça peut se scinder en combien de fois, ça, cette affaire?
Au cours de la saison, c'est vrai qu'il peut y avoir 2 à 3 essaimages comme ça. Et c'est vraiment un système de reproduction, et c'est pour ça que les abeilles ont réussi à coloniser des biotopes aussi variés en se reproduisant et en coupant en deux leur colonie.
Alors 170 000 aujourd'hui, c'est le nombre de plantes à fleurs qui sont pollinisées sur notre planète par les insectes. Et parmi ces fleurs, il y en a quand même plus de 40 000 qui auraient le plus grand mal à se reproduire sans le rôle absolument essentiel des abeilles, ou bien évidemment des insectes aussi, des pollinisateurs sauvages, parce qu'on parle très souvent des abeilles mellifères, mais aussi énormément de pollinisateurs sauvages. Bon, lorsque l'on voit que les chers néonicotinoïdes, en fait, sont plutôt en pleine forme, comment on réagit?
Mal, tout simplement, car c'est vrai que c'est une grosse pollution au niveau des eaux, de surface. On retrouve ces produits maintenant partout dans la nature, les Roundup aussi, l'herbicide, les néonicotinoïdes. Et il y a de moins en moins de parcelles en France qui ne sont pas touchées par ces graines systémiques.
Donc, qu'est-ce que l'on peut faire? Parce qu'on voit bien que ça a bloqué aussi. Alors, d'un côté, on vous fait un moratoire, mais la réalité, c'est qu'il y a eu un tonnage supérieur, donc l'année dernière, enfin, en 2014 par rapport à 2013, on l'a vu, de néonicotinoïdes. Qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Tout simplement aller voir son maire pour déjà que des bonnes pratiques soient mises au niveau des municipalités. C'est la première chose, écrire à son maire et écrire à son député et petit à petit essayer d'avoir une pratique plus vertueuse déjà dans les localités. C'est vraiment une bonne chose.
Et vous croyez qu'il va être élu député ou pas? Je vais essayer. Allez, on essaye.
Faut essayer.
Voilà. Alors sinon, une petite image d'abeille qui vous plaît, là, s'il vous plaît, pour terminer. Vous qui en avez vu des centaines de millions.
Aujourd'hui, j'étais sur un endroit assez magnifique, à la roseraie de Berty, dans une vallée de l'Ardèche, et ça butinait joyeusement. C'était vraiment magique. Et des abeilles mellifères croisaient des abeilles standards, des abeilles solitaires également. Et c'était un beau coin de nature.
Les routes du miel, c'est signé Eric Tourneret. Puis ce numéro, donc, le dossier Peuple des abeilles de Terre Sauvage. Je vous signale qu'il y a aussi ce week-end, une fête de l'environnement à Apte. Vous avez à Bure une manifestation là aussi par rapport aux déchets nucléaires. Et puis vous avez aussi la fête du lait bio. Ben oui, qui a plus d'oméga 3, entre 30 et 70%, la fête du lait bio un peu partout en France. Merci à Michel Bézikian, à Raphaël Rousseau, à Xavier Pestugia qui a réalisé l'émission, à Albéro, à Thierry Dupin, à Anne Gouzon qui nourrit les sites. La semaine prochaine, on va parler de jardin. Oui, on va changer complètement. Là aussi, les abeilles seront le bienvenu.